Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Une Heure en Série, saison 1, épisode 35. Une Heure en Série, l'émission qui décrypte et analyse toute l'actualité des séries télé, toutes chaînes confondues, et vous garantit des journées, des soirées séries 100% réussies. Ce soir, nous parlerons confinement extrême et lutte des classes avec The Snowpiercer sur Netflix, rivalité maternelle et mère de substitution dans Little Fires Everywhere sur Prime Video, et Quête des Origines et Dahlia Noire dans I Am The Night sur 13ème rue.
Une heure en série, Xavier Le Herpeur.
Et avec moi ce soir, non pas autour de moi, mais pas très loin, les Dahlia Noire, plus vénéneux que jamais de la critique télé. Je veux parler bien sûr d'Ava Cahen, de Frenchmania et du Cercle sur Canal+. Bonsoir Ava.
Salut Xavier, salut à toutes et à tous.
Vous allez bien ?
Ça va bien, et vous ?
Génial, très bien. Qui s'y frotte, s'y pique ? Ariane Allard, vous l'aurez reconnu, bien évidemment. De Positif, de Cosette et de Frenchmania également. Ouais. Bonsoir, Ariane.
Bonsoir, Xavier. Bonsoir, Benoît. Et bonsoir, Ava.
Et c'est notre Rose, beau en apparence, mais redoutable dans la
zone. Je m'attendais au pire. Bon, ça va, en fait.
Oui, j'ai manqué d'inspiration, c'est pas faux. Benoît Lagan, que vous retrouvez évidemment dans le 5-7 de Mathilde Munoz le vendredi et sur Télé Matin. Bonsoir, Benoît.
Bonsoir les filles, bonsoir Charlie.
Ah yes, il l'a fait.
Les anges.
Elle a été faite à la première émission, voilà. Consternant. Voilà, merci beaucoup de ce petit revival. Allez, on a peu de temps, donc premier débat sur la très attendue Snowpiercer. 10 épisodes diffusés par Netflix depuis le 25 mai, à raison d'un épisode par semaine, mais nous avons eu la chance d'en voir quelques-uns en avance, annoncé comme un reboot du film de Bong Joon-ho sorti en 2013 et librement inspiré du roman graphique Le transpersonnage de Jacques Loeb, Jean-Marc Rochette et Benjamin Legrand. Snowpiercer nous invite à monter à bord d'un train au mouvement perpétuel, unique et dernier refuge de l'humanité, après que la Terre est devenue un congélateur à ciel ouvert. 7 ans que ce train de la dernière chance roule sans s'arrêter, se frayant difficilement un chemin à travers glaciers et avalanches, 1001 wagons très précisément, où se retrouvent en première classe les nantis et puissants, pourtant responsables de la catastrophe écologique, suivent leurs larbins, puis les indésirables, entassés dans des wagons de deuxième et troisième classe, et en queue de train, tassés et malmenés, celles et ceux qui, sans ticket, ont bravé l'interdit et ont osé monter à bord du transpersonnage où ils servent désormais d'esclaves à tout faire. Au début de cette première saison, la deuxième est d'ores et déjà commandée, on retrouve un cadavre mutilé et émasculé, Mélanie Caville, qui fait office de leader du train et obéit aux ordres de son créateur, Mr. Wilford, va chercher dans les wagons des laissés-pour-compte un ancien inspecteur pour qu'il enquête sur ce crime, crime qui est la réplique exacte d'un autre meurtre survenu quelque temps plus tôt. Un inspecteur qui par ailleurs fomente dans l'ombre une révolte et va profiter de son nouveau statut pour découvrir les terribles secrets de ce train.
Attention all passengers. Wilford Industries wishes you good morning. Mr. Wilford would like to address the rumors of disturbances in the tail. Let me assure you, your security is our highest priority. Order will be restored.
7 years ago, the world ended. Now the train is all that's left.
First, the weather changed. In the final days of the freeze, the rich retreated to Nark.
This is Snowpiercer. This is how we survive. There are those who have, and those who suffer.
5 ans de préparation, 2 showrunners, autant de réalisateurs pour le pilote et différentes chaînes intéressées par le projet mais qui ont fini par lâcher l'éponge, c'est peu dire que cette série revient de loin. Mais elle arrive enfin à quai, produite par la chaîne TNT et finalement créée par Josh Friedman, co-scénariste au cinéma de La Guerre des Mondes de Steven Spielberg et auteur à la télévision de diverses séries sur lesquelles il a travaillé comme Terminator, Les Chroniques de Sarah Connor et Emerald City. La série est par ailleurs produite par 2 grands noms du cinéma coréen, Bong Joon-ho, donc auteur de transpersonnages au cinéma, mais auteur aussi du triomphal Parasite l'an dernier, et Park Chan-wook, auquel on doit les géniaux Old Boy et Mademoiselle. Côté casting, on retrouve Jennifer Connelly, que l'on avait vu entre autres dans Requiem for a Dream et Noé de Darren Aronofsky, et Hulk de Ang Lee, et David Diggs, rappeur et acteur, vu entre autres dans Blindspotting. Du côté de la presse, GQ parle d'une série angoissante et effrayante. Elle vous attrape et ne vous lâche plus. Si le triptyque angoissant, sanglant, glaçant vous sied, n'hésitez pas un seul instant, jetez-vous sur Snowpiercer. Première est plus mitigée, une adaptation télévisuelle bien moins spectaculaire que le film de Bong Joon-ho. Et pour Télérama, cette nouvelle adaptation de la BD française cherche par tous les moyens à étirer son récit. Elle tient la route grâce à une solide distribution, mais ne parvient jamais à nous fasciner. Benoît, qu'avez-vous pensé de ce Snowpiercer ?
Mais moi, je suis assez mitigé. On va dire que je suis quand même monté à bord du train assez facilement et puis que j'ai envie de suivre chaque épisode. Donc ça, c'est quand même plutôt réussi. Ouais. Je trouve que voilà, c'est une bonne surprise, même si voilà, j'ai quelques réserves. J'ai bien aimé déjà que la série commence par ce petit film d'animation comme un clin d'œil à la bande dessinée. Mais je pense que ça dit plus que ça. Vous savez, c'est un petit peu comme le logo Marvel au début des films Marvel qu'on l'on feuillette comme ça. Ça nous dit en gros, attention, vous allez voir une série en l'occurrence, mais vous êtes dans la BD. Et une fois qu'on est monté à bord, on rentre dans les cases. Voilà, pour les jeux de mots, c'est fini.
Ça tombe bien, hein, parce que c'est pas non plus...
Et je trouve qu'à partir du moment où on est dans le train, du coup, on peut être vraiment dans le film. Alors, j'espérais en réalité une série plus genre formula show. C'est-à-dire que dans chaque épisode, on entre par un personnage, un lieu du train, et que petit à petit, façon puzzle, tout ça se mette en place. Or, ils nous ont choisi un petit peu le crime de l'Orient Express, quoi, le Woodunit, pour la mise en place. Du coup, on est dans l'hyperfeuilleton, on est pris à fond la caisse dans toute cette histoire. Fort heureusement, sans trop rien dévoiler, cette enquête va finir quand même par être révélée assez vite, et donc ça nous laisse le meilleur, j'espère, pour la suite. Voilà, c'est plutôt réussi. Esthétiquement, je trouve que c'est plutôt malin, avec ces bons moments musicaux. Je pense notamment à cette chanson de Murray Head, à un moment donné, interprétée « Say it, Joe, on it. » Enfin, vous voyez cette chanson là de Muriel qui est reprise dans le cabaret
du confinement quand même.
Et puis à regarder en ce moment, après notre période de confinement, j'avoue que ça fait quand même un petit peu froid dans le dos, même si j'aurais aimé être peut-être un peu plus effrayé que ça. Voilà, plutôt une bonne réussite, juste espérant que l'effet montagne russe de la série s'adoucisse un petit peu avec le temps.
Ariane, êtes-vous montée à bord de ce train ?
Moyennement. Enfin, je suis allée jusqu'au bout. Moi, j'ai regardé tous les épisodes. Je pense qu'il faut être honnête quand même, dire aux gens qui ont aimé le film de Bong Joon-ho, qui vont trouver quand même la série très poussive. C'est-à-dire que c'est vraiment pas un train d'enfer. Hein. Ça, c'est vraiment le cas de le dire. Moi aussi, j'ai arrêté avec les comparaisons et les métaphores. Moi, je pense qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que il y a quand même ce sous-texte de la lutte des classes que moi, je trouve passionnant et qui anime quand même ce train. C'est un train allégorique, hein, bien sûr, normalement de bout en bout. Or, qu'est-ce qui se passe ? Les 5 premiers épisodes, c'est quoi ? C'est une enquête policière qui, en plus, est assez banale. Il l'a très bien dit, Benoît, c'est une espèce de Cluedo ou de Murder Mystery qui n'est pas très excitant, avec des figures quand même très classiques, c'est-à-dire c'est l'odieuse petite fille riche, les parents qui veulent étouffer l'affaire, le soldat qui est en situation de post-traumatisme, etc. Le suspense s'évente assez vite. Et en fait, au bout d'un moment, quand même, on regarde, parce qu'on est studieux et consciencieux, et on se dit que cette enquête qui est circulatoire, elle permet essentiellement aux scénaristes, quand même, de me faire comprendre comment le fonctionnement interne du train, de présenter les grandes figures du récit et de mettre en place les relations des personnages. Donc tout ça, je trouve, c'est quand même assez laborieux parce que ça dure 5 épisodes. Hein. On passe vraiment à l'essentiel après. Et mon deuxième regret, moi, il vient du personnage de Mélanie Cavill, je ne sais pas comment on prononce, qui est l'autrice du train et qui est aussi un petit peu, sans en dire trop, son génie maléfique. C'est un personnage qui est pivot, qui est fondamental. Les auteurs du show, ils ont essayé, semble-t-il, de le rendre plus humain, plus touchant, moins extravagant, enfin plus grand public, hein, en gros, il faut bien le dire, que celui et de la BD et surtout du film de Bong Joon-ho. Et je trouve ça hyper dommage parce que d'abord, cette Mélanie telle qu'elle, elle ajoute encore un degré supplémentaire, je trouve, à la banalité quand même ambiante de la série. Et même si Jennifer Connelly se donne un mal fou pour lui donner un peu de charisme, c'est impossible, honnêtement, de ne pas regretter la folie de Tilda Swinton dans ce rôle, puisque c'était elle qui a occupé ce rôle dans le film de Bong Joon-ho. Alors, bien sûr, il y a des choses qui sont pas mal. Hein. Il y a quand même des acteurs, notamment le David Diggs, je trouve qu'il tire fort bien son épingle du jeu. On se laisse aussi embarquer par le détective Letton, effectivement. Il a un charisme que je trouve assez doux. Moi, j'aime beaucoup ce genre de personnage. Il y a des moments d'action qui sont pas mal, mais on est quand même très honnêtement rarement galvanisé et par la mise en scène et par les décors et même par les effets spéciaux qui sont quand même très lisibles et très plan-plan. Et moi, je trouve que le seul truc un peu remarquable du show, en fin de compte, c'est que ça nous parle d'une situation d'exiguïté, de confinement et quand même quelque chose qui nous touche quand même directement aujourd'hui plus que jamais. Et en fait, on ne parvient jamais à trouver ça sensible, physique. On n'a jamais ce sentiment physique d'exiguïté, de confinement tout le long du show. Donc, pour moi, ça veut dire qu'il est quand même passé à côté, qu'il a raté un truc fondamental.
Merci Ariane. Donc c'est un train de la SNCF, nous sommes déjà en retard.
Voilà.
Donc je vais laisser la parole à Ava.
Mais que dire de plus en même temps ? Non, je rejoins tout à fait mes camarades et Première et Télérama. C'est-à-dire que malheureusement, cette enquête grippe le récit plus qu'elle ne l'épaissit. Elle ralentit le rythme, elle affaiblit l'attention, même si elle permet de montrer évidemment d'autres facettes de la vie à bord, ce qui était quand même le minimum hein, qu'on attendait. Alors, c'est une série à gros moyens, à la direction artistique plutôt soignée, qui cherche l'efficacité et les frissons par la narration en flux tendu et le montage, qui s'inscrit dans plusieurs courants à la mode sur le petit comme le grand écran, la dystopie, le fantastique, le survival, et qui traite d'un sujet qui fait toujours de l'effet, vous l'avez dit, la lutte des classes, les injustices sociales et évidemment les catastrophes climatiques. Donc voilà, ça coche à peu près toutes les cases du programme à la mode, et en plus on embarque direct dans l'action. Je m'attendais, je crois, à ce que la série s'éloigne un peu du film de Bong Joon-ho, que j'aime beaucoup, mais finalement, c'est ce que vous disiez, elle reprend en plus l'intrigue principale et à bien des endroits, elle souffre de la comparaison avec le long métrage qui avait tout de la superproduction. Et vous allez peut-être trouver ça stupide, mais j'ai eu du mal à me repérer en termes de géographie, à me figurer l'espace, parce qu'on on entre dans cet immense train là qui est composé de 1001 wagons au sein desquels il existe plusieurs divisions par classe. Ouais, voilà. Et on voit des personnages se rendre en un claquement de doigts d'un endroit à un autre sans que ce soit une difficulté, ce qui tord les perceptions qu'on peut avoir. Bref, c'est un détail, mais il y a plein de petites choses comme ça dans cette série qui s'arrangent beaucoup avec le scénario et la crédibilité. Et force est de constater que ça tient moyennement la route malgré de l'effet de vitesse qui cherche à nous endormir et les scènes d'action bien troussé, même si là encore c'est moins spectaculaire et tranchant, voilà, que le film de Bong Joon-ho. Et les effets spéciaux, je te rejoins Ariane, en extérieur je les trouve un peu cheap, tandis qu'en intérieur je trouve que ça a quand même plus de cachet et plus d'éclat, et c'est assez fidèle au canon de la BD et du film. Et voilà, côté casting je vous rejoins, Dave Diggs il est formidable, et Jennifer Connelly, voilà, qui joue les commandants de bord façon Reine des Neiges, bon, pourquoi pas. J'attends de voir la suite, parce que une chose est sûre, c'est que même si c'est un peu décevant, on a quand même envie d'aller au bout du voyage, ne serait-ce que pour voir ce dont les rebelles sont capables.
Je n'ai pas de sifflet, mais c'est le terminus. Désolé de ce premier débat consacré à Snowpiercer sur Netflix. Let's go. We see the hype outside. Right from the house. Took it straight from outside. Straight to the couch. We put the mic outside. Edit shit out. You letting the scouts outside. We running the scouts. Ain't no control in the game. They never leave. I got tats over my veins, cause that what I bleed. She drink a lot of the bourbon, like she from the street. We got control of the flows in her. We heard that your wave went dry, we flood in the drought. Heard that your hood outside, we added some routes. We having the goods outside, move it in and out. We letting the scouts outside, we running the scouts. Nigga, the cops outside, yeah. Lock up the house, yeah, yeah. We keep the team on high, yeah. Some gold in their mouth, yeah, yeah. Nigga, the Porsche outside, yeah. With at the top, yeah, yeah. She one of my most outside, bringing the shots, yeah, yeah, yeah. Tell these phony bitches beat it, with that Photoshop and body Adobe, helmet, she in there making panini, she know I got all the bread, she know me, got it. I'm a hustle, I've been busy, it's been a minute since my niggas done known it, howdy. Boy, he make him pay. Yes, that Cleveland boy, he done made a way. Hey, headed for somewhere to go. Anywhere, send him on these. Niggas don't know where to go. Gotta keep giving them heave. Time to go double, though. Time to add up the mad. And I've been dealing with so many things, having so many dreams. Let's go! Voilà, nous venons d'entendre le duo Travis Scott et Kid Cudi sur la chanson The Scott. La semaine dernière, le rappeur américain Travis Scott a fait sensation en apparaissant dans le jeu Fortnite pour une série de mini-concerts qui ont quand même rassemblé près de 12 millions de joueurs. L'occasion pour lui de lancer son nouveau titre, The Scott, qui a été streamé plus de 42 millions de fois aux États-Unis, c'est un peu comme une heure en série d'ailleurs, et téléchargé pas moins de 67 000 fois le point d'orgue d'un parcours fulgurant de ce jeune chanteur de 28 ans auquel Netflix a consacré un très bon documentaire biographique intitulé « Look Mom, I Can Fly, Regarde Maman, Je Peux Voler ».
France Inter. Série.
Deuxième débat, on va essayer de faire plus synthétique peut-être, Little Fires Everywhere, série de 8 épisodes disponibles sur Prime Video. Nous sommes dans une banlieue chic et donc à la majorité blanche des États-Unis. À la fin des années 90, Elena Richardson, paradigme de la bonne épouse wasp ayant su se rendre indispensable tant dans sa famille que dans son travail et son quartier, accepte de louer pour un prix dérisoire une maison à Mia Warren, une femme afro-américaine qui vit dans sa voiture avec sa fille. Une artiste photographe avec laquelle Elena tente de nouer des liens avant de prendre peu à peu en grippe sa protégée. Commence alors entre cette femme qui croit penser à gauche mais retrouve vite des réflexes droitiers et Mia, une rivalité qui s'achèvera, je ne révèle rien, c'est la séquence d'ouverture de la série, dans un incendie symbolique et cathartique, une série troublante et complexe sur la maternité, le rapport mère-fille ainsi que sur le déterminisme de classe sociale et ethnique, adaptée du roman éponyme de Céleste NG, paru en France sous le titre « La saison des feux » aux éditions Sonatine.
So rent is $300 a month, well below market, but it's really not about the money for us.
So you rented it to her on the spot, just like that. Do you even know anything about this woman?
What is it that you do?
I'm an artist.
And then you ask her to come work in our house?
It is a beautiful thing to know that your actions can affect another person's life.
All mothers struggle. Money hides it. But you can't put a price on a mother's love.
Maybe you should wear your hair down.
Mom.
It's actually your best feature.
So is it just you and your mom?
Mm-hmm. We move around every few months. She hides stuff, just like everybody else.
Créée par Liz Tigelar, créatrice de Life Unexpected et coproductrice sur Nashville et The Astronaut Wives Club, la série réunit un duo en forme de duel impitoyable qui oppose d'un côté Reese Witherspoon, impeccable en blonde rigide avec serre-tête, Reese Witherspoon pour mémoire, on l'a vu récemment dans Big Little Lies et The Morning Show, et donc ce duel l'oppose à Kerry Washington, l'inoubliable Olivia Pope de Scandale. Côté presse, première, l'histoire explore le poids des secrets, la nature de l'art et de l'identité, l'attrait féroce de la maternité et le danger de croire que suivre les règles peut éviter le désastre. Nicolas Demorand, sur l'antenne de France Inter, a parlé d'une série qui déploie des portraits de femmes magnifiquement travaillées, toutes composent au fil des épisodes un tableau politique et social d'autant plus puissant qu'il n'est pas dessiné au marqueur jaune fluo, mais suggéré par les événements, les choix, les drames auxquels ces femmes sont confrontées. Qui va prendre le risque de donner tort à Nicolas Demorand, la vedette du 7-1 sur France Inter, et qui va donc prendre le risque de voir son contrat s'interrompre immédiatement? Ariane Allard ?
Oh, vous êtes gentille de me lancer cette perche. Alors, moi, en fait, peu importe que ce soit Xavier, Nicolas ou autre, moi, j'ai trouvé cette série passionnante. Mais vraiment, je trouve qu'elle nous tient en haleine tout au long de ces 8 épisodes. Et pas seulement parce que sa mise en scène emprunte beaucoup au thriller. Hein. Et pas seulement non plus parce qu'il y a le talent de Reese Witherspoon ou celui de Kerry Washington. L'une et l'autre, d'ailleurs, font feu de tout bois. Voilà, petit clin d'œil.
Joli, joli, un point. Allez, je note.
Voilà, c'est vrai qu'au départ, on se dit, ouais, ça ressemble à une énième variation de ces séries, vous savez, qui dressent un portrait acerbe de la vie dans les banlieues UP américaines. On pense à Desperate Housewives ou bien sûr à Big Little Lies à cause de Witherspoon. Et en fait, c'est plus intéressant, je trouve que c'est plus profond et beaucoup plus subtil que ça, parce que la série introduit, vous l'avez dit Xavier, la question du racisme, en plus de celle de la lutte des classes, dans la relation qui est à la fois électrique et toxique, qui se noue peu à peu entre ces deux femmes antagonistes. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que ces thématiques sont traitées de façon très adulte, c'est-à-dire qu'elles sont complexes, subtiles, on évoque tous les embarras, toutes les négligences, toutes les humiliations, toutes les appropriations que ces thématiques, c'est-à-dire les personnes racisées, le racisme ordinaire, la fausse bienveillance, les bonnes intentions et le réflexe de domination qui se niche derrière ces bonnes intentions, tout ça est traité de façon incroyablement diverse, profonde, subtile. Et c'est tous ces petits feux, évidemment, qui précisément, mis bout à bout, vont chaque jour déboucher sur l'incendie ravageur et la séquence d'ouverture assez violente, quand même, il faut le dire, de la série. Voilà. Et l'autre chose que je trouve très intéressante, je ne vais pas être trop longue, je vous promets, Xavier, c'est que ça livre quand même une analyse assez intéressante et assez dérangeante de la maternité. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on nous propose deux modèles parentaux différents à travers les deux personnages de Mia et de Elena, mais ce sont deux modèles et une confrontation surtout où personne ne gagne. Et c'est ça que je trouve intéressant. Aucun modèle ne l'emporte, que ce soit le modèle bohème ou le modèle plus que parfait de la famille blonde américaine. En fait, ce qu'on nous propose et ce qu'on nous montre à travers ces deux maternités, c'est quand même deux façons de créer une emprise sur les enfants. Et toute la série nous explique que c'est, en fait, pour s'en sortir, il faut se libérer parfois violemment de cette emprise. Et moi, j'ai rarement vu traiter la maternité dans une série américaine de façon aussi dérangeante et aussi originale.
Ouais. Merci beaucoup Ariane. Benoît, vous aimez les séries familiales, tout le monde le sait. Qu'avez-vous pensé de Little Fires Everywhere?
Ben, je suis totalement d'accord avec Ariane.
Moi, j'ai été génial, emballé. Merci beaucoup. Alors,
j'ai été emballé et surtout, je repense à ce qu'elle disait sur le fait que ne pensez pas voir l'énième Big Little Lies. C'est pas parce qu'il y a Little dedans dans le titre et qu'il y a Reese Witherspoon et que ça parle de ces familles, notamment d'une, donc de ces quartiers UP, que c'est Big Little Lies. Justement, c'est tout le contraire presque. Big Little Lies, finalement, jouait avec les codes du soap opéra, en fait, un peu de luxe. Et là, la série s'en dédouane. Moi, en fait, ça m'a fait penser, et il y a plein de clins d'œil pour le sériephile des années 90 dans cette série, parce que la situation centrale de l'histoire se situe en 1996-17. Et donc, il y a plein de petits clins d'œil, notamment dans ce que les personnages regardent, et notamment les adolescents regardent. On sent bien qu'ils sont plus Buffy, par exemple, que Beverly Hills. Ils le disent à un moment donné dans un détour du dialogue. Et que la série soit portée par Lee Stigler, qui a fait ses classes sur Dawson. D'ailleurs, il y a un des comédiens de Dawson qui joue dans la série. Et sur aussi des soap drama, des mi-soap, mi-drama, comme Nashville ou Brothers and Sisters, ben, ça se voit. Elle assume complètement la série familiale. Et chaque fois où elle pourrait tomber dans le soap et dans la grandiloquence du soap, elle l'évite. Et donc ça, c'est vraiment très réussi à ce niveau-là. Tous les personnages sont touchants, les mères, certes, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Ariane, c'est parfaitement juste, mais aussi sur les adolescents. Je trouve qu'avec toutes ces séries Netflix qu'on voit aujourd'hui sur le monde adolescent, bazar, regardez cette série pour voir ce que c'est que vraiment des enjeux adolescents traités avec finesse, un petit peu comme pouvait le faire Angela, 15 ans, à nouveau dans les années 90. Donc c'est vraiment une grande réussite. Et ces petits feux, finalement, ne vous laissez pas non plus avoir par la scène introductive, parce que finalement, l'enquête autour, entre guillemets, de cet incendie, on s'en fiche assez vite, parce que ce qui nous intéresse, c'est les feux intérieurs de tous ces gens.
Ouais. Jolie, belle conclusion. Bon, je vois qu'on a une bande de faillots qui ne veut pas donner tort à Nicolas Demorand. Vous aurez le courage de vous opposer quand même.
C'est moi,
quand même
c'est moi qui vais rendre c'est moi qui
cet enthousiasme général.
Non,
certainement pas.
Non, j'aurais voulu voir la série avec les yeux de Benoît et d'Ariane, mais malheureusement, j'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était un petit peu lourd. Comme les secrets que portent les personnages et on les trouve au kilo. La série reprend la pure mécanique du whodunit. Et bien sûr, ça commence par la fin, vous l'avez dit, par l'incendie de la maison des Richardson. Et bien sûr que si, on pense forcément à Big Little Lies qui reprend la même structure, sauf que même si là, il n'est pas question de violence conjugale, mais plutôt de racisme et de sexisme ordinaire. Et j'ai pas lu le roman dont est adaptée la série, mais ce qui me chagrine un peu avec ce programme qui est plutôt de bonne facture, c'est que finalement, la dimension psychosociale sonne un peu creux. La série a indéniablement de bonnes intentions, mais tout ce dont elle traite, sexisme, racisme, déterminisme social, réussite, éducation, maternité, ne s'établit que par du conflit binaire. Et ça, c'est le drama qui veut ça. Et alors, d'une part, on a cette famille blanche, propriétaire, bien sapée, bien pensante, condescendante sans s'en rendre compte, qui rappelle toujours la couleur de peau de ceux qui n'ont pas la même que la leur. Et d'autre part, une mère et sa fille, noires, issues d'un milieu beaucoup plus modeste, qui viennent s'installer dans cette banlieue chic, qui les juge tout de suite. Évidemment, ça crée des étincelles. Évidemment, le but de la manœuvre, c'est d'éveiller les consciences et de faire du divertissement à caractère pédagogique, sauf que le côté satirique en prend un coup et je trouve que la critique du monde privilégié que les Richardson incarnent manque d'audace, même si on est d'accord avec les constats que tire la série sur ce qui clive l'Amérique de ces dernières années, j'ai eu l'impression qu'on enfonçait quand même pas mal de portes ouvertes et qu'il y avait peu de nuances dans les interrogations que tous ces thèmes brassés suscitent et dans la démonstration que la série fait et qui s'articule beaucoup autour de la notion du bien, du mal et du cliché. Donc voilà, je trouve qu'il y a des épisodes qui sont plus passionnants que d'autres, plus mordants, mais globalement, je trouve la série assez décevante, trop sage et prévisible.
Merci beaucoup, Ava, d'avoir éteint l'incendie de Little Fires Everywhere, disponible sur Prime Video.
Ooh, my nation's on the lumen effect and the parallax view and the figure and the form and the revolving door that keeps turning out more and more good women like you. Yet another woman to whom I won't get through. Ooh, my nation's on the lumen effect and the parallax view and the figure and the form and the revolving door that keeps turning out more and more.
another woman to whom I won't get through. Ladies, 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 take it easy when he leaves me. Please be my guest. Do whatever I might have left in his kitchen cupboards, in the back of his bathroom cabinets. And oh yes, oh yes, oh yes, there's a dress in the closet. I didn't fit in it. It was never mine. It belonged to the ex-wife of another ex of mine. She left it behind with a note. One line it said, I don't know if I'm coming across, but I'm really trying. She was very kind.
Ladies de Fiona Apple, titre extrait de son nouvel album au titre évocateur Fetch the Bolt Cutters, littéralement va chercher le coupe-boulon, ne me demandez pas ce que ça veut dire, je n'en sais rien. Le cinquième album Homemade, écorché vif après 8 ans de silence de la chanteuse, et ça fonctionne puisqu'à sa sortie aux États-Unis, Fetch the Bolt Cutters s'est classé directement à la 4e place du top Billboard.
France Inter. Une heure en série.
Ah, et c'est le moment tant attendu des auditrices de France Inter, les miroirs de Benoît Lagan.
N'importe quoi.
Rapproche du poste et tout de suite, leur libido connématique inatteignée. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais ça n'est pas grave. Et dans les miroirs cette semaine, en clin d'œil à la série Snowpiercer, une autre BD francophone adaptée en série il y a 18 ans par des Américains, Jeremiah.
Oui, Xavier, c'était en 2002, à la chaîne Showtime, lancée sur son antenne Jérémia. Donc, c'est l'adaptation de la BD d'Hermann, Hermann, Grand Prix 2016 à Angoulême. Alors, l'histoire de cette BD belge, publiée pour la première fois en 1979, se situe aux États-Unis, au 21e siècle. Et alors que la dernière guerre raciale vient de se terminer, ça s'est terminé en apocalypse atomique. La BD suit l'errance de deux personnages au caractère bien différent, Jérémia, donc, et Curdy, dans un monde marqué par la violence humaine et l'horreur. Alors, la série télé reprendra le principe de ce duo de personnages, Jérémia et Curdy, l'idée du monde chaotique, mais plutôt que de reprendre l'idée d'une guerre civile raciale, elle préfère déplacer l'origine du cataclysme. C'est en effet à la suite d'un virus, tiens, que les survivants doivent réapprendre à vivre et à recréer société. Alors la série est située en 2021. En 2006, 15 ans plus tôt, hein, donc 5 ans après le 11 septembre, si vous suivez bien, quelques mois à peine hein, après le 11 septembre, un virus élimine de la surface 6 milliards d'hommes et de femmes ayant dépassé l'âge de la puberté. 15 ans plus tard, donc en 2021, quand commence la série, on nous montre ce que sont devenus les enfants et préadolescents survivants après le choc de cette grande mort. Alors, ces jeunes adultes ont dû apprendre à survivre seuls et se sont organisés pour maintenir leur existence en piochant dans les réserves du monde d'avant. Et il est temps pour eux d'envisager une autre organisation de vie avant d'avoir épuisé toutes les ressources à leur disposition. Et c'est dans ce contexte, donc, à travers cette Amérique dévastée, que Jeremiah et Curdy vont rejoindre une communauté secrète installée dans une ancienne base militaire située sous une montagne et vont tenter de retrouver un secteur, le secteur Valhalla, sorte de terre promise évoquée avant le cataclysme par le père de Jeremiah. Alors, cette adaptation télé qui n'a pas été du tout appréciée et validée par Herman reste toutefois une série honorable avec au casting. Dans le rôle titre, Luke Perry, bien loin du rôle de Dylan dans Beverly Hills, mais aussi de celui qu'il incarnait dans Oz, où il jouait un révérend qui se prénommait déjà Jeremiah, et puis dans celui de Curdy, Malcolm Jamal Warner, bien des années après son rôle de Théo dans le Cosby Show.
Et du côté de la production alors, Benoît, qui est à la manœuvre ?
Alors, une société spécialisée dans l'achat des droits d'adaptation BD qui s'appelle Platinum Studio achète donc les droits à Dupuis et elle propose la série au studio du Lion qui rugit, la MGM, pour développer donc une série pour Showtime. Le studio fait alors appel à Joseph Michael Straczynski, un scénariste passionné par la SF ou l'anticipation. Sa grande œuvre Babylon 5 a marqué l'histoire du space opéra des années 90. Il est un grand amateur de BD et on lui doit notamment des scénarios de séries animées comme Les Maîtres de l'Univers, vous savez, Musclor, et puis l'écriture de quelques comics. La série produite dans l'immédiat après 11 septembre et quelques mois après l'apparition d'une nouvelle grande manifestation du virus Ebola colle parfaitement aux peurs de l'époque et le showrunner de la série qui a souvent questionné dans ses récits le poids des religions ne cesse tout au long de Jeremiah de s'interroger sur le sens de la vie et l'errance de ces hommes confrontés à la mort et en quête d'espérance. Alors, étrange production quand même que son créateur aurait aimé développer sur 5 saisons mais qui du fait des désaccords artistiques avec le studio et la chaîne qu'il n'a pas pu poursuivre comme il l'entend. D'ailleurs, Straczynski avait prévu de claquer la porte pour la saison 3. Au final, la série n'ira pas au-delà de la seconde saison, soit uniquement 35 épisodes, pas plus. Dommage, Jeremiah avait du potentiel. Après cette expérience, du coup, Joseph Michael Straczynski a poursuivi sa carrière d'auteur prolifique, notamment pour la BD. Il a écrit des comics Marvel. Et puis, il a monté son studio JMS, avec lequel il a co-créé la série Sense8 des Wachowski pour Netflix, ce qui n'est pas rien.
Merci beaucoup Benoît pour cet effet miroir, une chronique à réécouter en podcast, de même d'ailleurs que l'émission Une heure en série. Vous êtes bien dans Une heure en série sur France Inter avec ce soir autour de vous Ava Cahen, Ariane Allard et Benoît Lagane et c'est l'heure du débat numéro 3, le dernier de la soirée. I Am The Night, une série en 6 épisodes disponible sur 13e rue. Fauda Odel, jeune métisse mais au trait d'une telle blancheur qu'il prête souvent à confusion, enquête dans les années 60 sur ses origines. Une piste qui l'amène jusqu'à son grand-père, obstétricien blanc star de Los Angeles, mais dont les agissements de l'ombre ont été autrefois dénoncés par un journaliste pour avoir justement osé s'opposer à un homme aussi omnipotent. Ce jeune reporter a été renvoyé de son journal et vivote depuis en vendant des scoops douteux. Mais lorsqu'il découvre que Fauda se rapproche dangereusement de ce prédateur déguisé en homme de science et soupçonné autrefois d'avoir été lié à l'affaire du Dahlia Noir, notre fringant héros va tenter de porter secours à la jeune femme en potentielle détresse.
Allô ? Tu vas pas en revenir, j'ai eu un coup de fil anonyme hier soir. Devine à propos de qui ? J'ai trouvé la fille.
Qui êtes-vous ?
Je suis reporter.
Moi, je suis personne.
Vous êtes sûr ?
Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce que mon grand-père lui a fait ?
Dites-vous, vous vous rappelez du Dahlia Noir ? Il y a des histoires qu'il faut pas raconter.
Elle pourrait anéantir ta vie.
La mort, le mal, ils sont autour de nous à chacun de nos pas.
J'imagine que tu me vois comme le diable incarné.
Je vais découvrir la vérité. Et je me fiche de ce que ça brise.
6 épisodes créés par Sam Sheridan, dont ce sont presque les débuts, produits par son acteur principal, Chris Pine, le Captain Kirk des Star Trek de J.J. Abrams, et le non moins iconique Steve Trevor dans Wonder Woman. On retrouve également au casting de cette série India Esley, la vie secrète d'une ado, et Jefferson Maes, vu dans The Americans, à noter que la réalisatrice de Wonder Woman, Patty Jenkins, est par ailleurs épouse de Sam Sheridan dans la vie, a mis en scène les 2 premiers épisodes. Côté de la presse, pour le site Combini, c'est une déception. Malgré une photo léchée et une mise en scène organique, le nouveau drama de TNT peine à nous captiver. Pour Télérama, c'est un peu plus mitigé, pas de quoi s'agripper au canapé. Je ne sais pas comment on s'agrippe à un canapé. Mais l'ensemble est élégamment produit et porte une réflexion intéressante sur l'identité raciale. Ava, qu'avez-vous pensé de I Am The Night ?
Eh ben, j'ai trouvé ça parfois brouillon et j'ai l'impression que c'est dû à ce choix de traiter de cette histoire fleuve et complexe en 6 épisodes seulement. Et ce parti pris ne fonctionne pas. Alors en fait, il y a plusieurs problèmes hein, de plusieurs natures dans cette série. Elle marche déjà sur un terrain qui est hyper balisé, qui est le film noir en l'occurrence, mais elle manque d'élégance, de panache et de rythme parce qu'il est artificiellement étiré. Il y a des longueurs dont on se serait volontiers passé. Et dès le premier épisode, qui est quand même ultra chargé, j'ai su que le courant ne passerait pas entre cette série et moi pour des raisons de narration et d'interprétation essentiellement. Et c'est dommage parce que c'est ce que vous disiez, Xavier, les différents sujets qu'elle aborde m'intéressent en soi. Le Los Angeles des années 60 et ses démons, la ville des rêves où tout n'est que mirage et cauchemar, l'ombre du dahlia noir, l'ultra-racisme des mondains et des blancs bourgeois, ici encore. Le hic, c'est que tout ça n'est que l'arrière-plan, une toile de fond qui sert finalement à projeter les conflits intérieurs des deux principaux personnages, les tourments de Jay, donc, reporter tête brûlée, hanté par ses souvenirs de la guerre de Corée, et les tourments identitaires de Fauna, jeune femme blanche qui vit avec sa mère noire, mais qui en réalité voilà, a des liens de parenté avec une riche famille blanche qui règne en maître sur elle. Et c'est ensemble, au détour d'une enquête qui va les rapprocher, que Jay et Fauna vont déterrer les sombres secrets voilà, de LA, alors que la police du coin fait l'autruche. Comme dans les films noirs, il y a des gentils et il y a des vilains. Et les vilains ici, eh ben, le vilain a le dos bien chargé. On est vraiment dans la figuration du mal au sens quasi religieux du terme. Hein, l'enfer, le diable, les cornes, la débauche. Voilà, la série sort sur tout un tas d'images qui ont imprimé notre réticence ailleurs, et ça donne du coup une impression de déjà-vu qui n'est transcendée par rien. Et je termine sur ça, sur le jeu, pardon, Chris Pine, c'est vraiment un acteur de série B, le Brad Pitt du pauvre. Il a un jeu tout en force, sans subtilité, les moments où son personnage pète un plomb, mais c'est ridicule. Et vous allez dire que je suis méchante, mais j'assume parce que le goût pour une série, ça passe aussi par le casting, ça passe aussi par les acteurs. Et là, je trouve tout le monde très théâtral et on est plus proche à ce niveau-là des Feux de l'amour que de LA Confidential. Voilà.
Bien envoyé, Ariane là.
Ah bah écoutez, alors moi je partage complètement la vie d'Ava. Bonjour la littération, en passant. Et pourtant, au départ, moi je trouvais que c'était pas inintéressant ce regard en biais, biaisé, décalé sur cette fameuse affaire du dahlia noir. Ça, je trouvais ça intéressant. C'est une quête d'identité sur fond de tragédie familiale, mais ça regarde aussi une affaire hyper documentée, mais toujours aussi obscure, qui est donc le dahlia noir. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans une mini-série, mais à la combustion très, très, très lente, hyper scolaire et hyper appliquée et surtout passablement désincarnée. Alors, avec ce que vient de dire Ava sur les acteurs, oh, on a compris. Chris Pine, en fait, il cabotine, hein, tout simplement. Voilà, c'est un cabotin. Et India Esley, elle est d'une fadeur incroyable. Donc, moi, je me suis passablement ennuyée à les regarder. En plus, l'épisode pilote, c'est une espèce de diptyque qui est découpé autour de ces deux personnages. On attend, mais alors, vainement, laborieusement, que ces deux personnages se rencontrent, puisqu'on sait qu'ils vont se rencontrer. Et en attendant, on baille, parce que les scènes d'exposition sont hyper longues, inutilement cryptiques en plus, on voit très bien ce qui va se figurer, et le jeu des acteurs donc hyper faible. Moi, ce qui m'a le plus gênée en fait, ce sont surtout les modèles qui, à mon avis, écrasent complètement cette série. Et je ne parle pas de l'adaptation au cinéma du dahlia noir de Brian De Palma, que moi, en plus, je continue à trouver, pour moi, c'est un film quand même qui reste hyper magnétique, même s'il a aussi, il est imparfait. Non, pour moi, le modèle est vraiment réel, qui de toute évidence a nourri les fantasmes et de l'auteur et de la réalisatrice, puisque je parle surtout des deux premiers épisodes. C'est le film de Polanski, c'est Chinatown, qui est une espèce de thriller tortueux, lugubre, mortifère, et qui était aussi un hommage, bien sûr, au film noir américain, sauf que c'était un hommage qui, quand même, générait de la terreur et même une espèce d'admiration incommode, on va dire. Puis bon, il y avait Jack Nicholson, quand même, ça change quand même un tout petit peu tout l'histoire. Là, eh ben, on se retrouve avec un récit qui, certes, est assez joli, parce que la reconstitution est belle, mais qui est totalement étiré et surtout totalement vide et creux, quoi. Enfin, moi, je me suis passablement ennuyée.
On va essayer de faire bref, cher Benoît. Qu'avez-vous pensé de I Am The Night ?
Non, mais je ne vais pas sauver la série complètement. J'ai quand même regardé ça avec plaisir. Mais même problème, je pense. Le problème, non pas de l'étirement. Moi, je pense que c'est le problème de trop peu d'épisodes. Si vraiment ils étaient partis sur une vraie et longue série, ils auraient pu tout aborder. Moi, ce que je trouve intéressant, par exemple, dans le premier épisode, la mise en place, la description de ce petit bled du Nevada, de la vie de cette jeune métisse dans ce bled-là, moi, j'aurais aimé voir ça longtemps, beaucoup plus longtemps. En fait, j'aurais aimé une chronique plus plutôt que d'essayer de courir après cette affaire du Dahlia Noir, qui d'ailleurs, à un moment donné, arrive, mais arrive quand même assez tard, au fond, dans la série. Et donc, il y a plein de choses que la série aurait pu aborder. Donc, cette histoire de ce que c'est qu'être métisse à cette époque-là, la violence de la police envers la communauté noire, le statut que l'on accorde aux vétérans, ces héros américains revenus meurtris des précédentes guerres, la course aux faits divers dans la presse sensation, la description de cette très haute bourgeoisie cultivée de Los Angeles, etc., etc. Il y avait de quoi faire presque une série en 5 saisons s'ils avaient assumé le choix de la série. Or là, ils veulent nous faire un long film, eh bien, ils auraient dû faire 1h30, ça nous aurait suffi.
Merci beaucoup, bah, je crois qu'on a compris, on s'est tous enfoncés dans l'obscurité avec I Am The Night sur 13e rue.
Si je n'ai pas retrouvé dans tes yeux la lumière, c'est que ton cœur a lâché tes poumons, une rivière. Château des secrets, tu es le moins âgé, tu en connais des secrets, tu les dis pour pas les oublier. Ah, ah, oublier tes enfants et les enfants.
Voilà, c'était La Lumière, interprétée et composée par Pomme, extrait du 2e album de la chanteuse intitulé Les Failles, un album sorti fin novembre 2019, un album à propos duquel elle déclare « J'ai voulu essayer de m'affranchir de tout ce que j'étais, je suis une femme qui grandit dans cette société française avec plein de choses difficiles à vivre au sein de celle-ci. C'est un album assez lourd, mais nécessaire, lourd peut-être, mais en tout cas cristallin et superbe, mais c'est mon avis personnel. »
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure du plateau télé, il nous reste une poignée de minutes, vous avez bien entendu, une poignée de minutes, n'est-ce pas ? Donc il va falloir faire court et concis. C'était la consigne du jour, mais vous avez un peu de temps quand même. Et Ariane, vous allez nous parler de skate au féminin avec la série Betty sur OCS City.
Oui, Xavier. Alors cette semaine avec Betty, je vous propose un plateau télé à la fois féministe, queer, rigolo et frais. Donc un petit cocktail très sympa pour ce week-end quasi estival, à déguster d'ailleurs sur OCS, hein, je précise. Donc, puisque vous m'avez dit de faire court, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Je vais être honnête d'abord vous dire que le premier épisode, qui concentre quand même toute son énergie sur une histoire assez ténue de sac à dos perdu dans la ville, est quand même moyennement passionnant, sauf que la série monte en puissance et elle devient mais parfaitement addictive et sans lâcher pour autant d'ailleurs son originalité, c'est-à-dire ce petit côté docu-fiction aléatoire. C'est à la fois brut et doux, sensuel, virevoltant, c'est raccord avec les zigzags qu'emprunte ce groupe de jeunes nanas puissantes au look coloré qui exécutent donc leur figure dans les rues et les skateparks de Brooklyn. Et précisément, ce sont ces images qui peu à peu dessillent les regards, en tout cas le mien. C'est vrai qu'au premier abord, Betty, c'est une série un peu flâneuse qui fait l'éloge de l'éros adolescente, comme on a vu dans plein d'autres films, notamment, et si ce n'est des séries. Mais à la différence des films cultes auxquels il fait penser, c'est-à-dire, je pense notamment aux films de Jonah Hill ou à ceux d'Harmony Korine il y a quelques années, la série Crystal Moselle raconte surtout comment un groupe de filles marrantes et ardentes s'approprient l'espace urbain. Autrement dit, pourquoi et comment elles choisissent d'occuper la rue en balayant et les colibés, et les assignations, et les inégalités. Et c'est pour ça, je pense, qu'en fin de compte, cette série qui est très contemporaine emporte et ravit, parce qu'elle nous montre d'abord des héroïnes qui défient tous les genres, toutes les étiquettes, tous les stéréotypes. Ensuite, parce qu'elle nous raconte qu'être une femme dans l'espace public, aujourd'hui encore, ça reste un combat, sauf qu'elle nous le raconte de façon gracieuse et avec beaucoup d'humour. Et enfin, parce qu'elle nous rappelle, et je trouve que c'est un message très fort aujourd'hui encore, l'utilité et la force du collectif et du groupe pour lutter contre l'adversité. Voilà. Donc, branchez-vous sur OCS dès ce week-end, ou en tout cas cet été, pour voir Betty.
Merci beaucoup, Ariane. Ava, je ne sais pas, je sens comme une odeur de latex, de cuir. J'entends le doux son des fouets qui claquent. Allez-vous nous parler de Bounding sur Netflix ?
Ah bah oui, vous savez bien que j'aime parler de sexualité à travers mes choix de plateau télé, et donc j'ai pensé qu'on pouvait passer au stade supérieur, qu'on pouvait briser la glace,
on
a eu toute une saison. Bah oui, on a eu toute une saison pour s'attacher les uns aux autres. Donc voilà, la série dont je vais vous parler, c'est Bonding, toujours diffusée sur Netflix, qui veut dire en anglais « créer des liens », et qui évoque aussi la pratique sadomasochiste du bondage, où on se ligote donc. Mais je vais m'arrêter là pour le cours théorique, parce que les courts épisodes de cette série, 15 minutes et des poussières, un format sitcom donc, font ça beaucoup mieux que moi, avec humour, dérision et sans vulgarité, ce qui est une prouesse, hein, parce que c'était franchement compliqué de réussir à faire une série sur ce sujet sans sombrer dans le mauvais goût total et gratuit. Mais Ryder Doyle, le créateur, qu'on connaît pour les séries Barry et You're the Worst, trouve le juste point de vue, les bons personnages et le bon ton pour parler de pratiques souvent taboues, mais surtout pour parler d'amitié, de rapports humains et intimes, de tout ce qui nous lie. Alors, on suit les aventures de deux personnages très attachants. Pete, jeune homme peu sûr de lui, gay, qui aimerait faire du stand-up mais qui n'ose pas se jeter à l'eau. Et Tiff, sa meilleure amie, étudiante en psychanalyse, qui, pour joindre les deux bouts, a accepté un job de maîtresse dominatrice. Et elle est super populaire à New York dans cette peau-ci. Pete, qui ignorait tout des activités de Tiff, va petit à petit se trouver mêlé au business. Et on va donc découvrir un nouveau monde à travers les yeux de ce personnage naïf et touchant qui va se laisser séduire par l'idée de manier le fouet. Et la séquence d'ouverture à cet égard est très drôle, jouant des clichés pour détendre l'atmosphère. Bref, c'est réjouissant, fun et moderne. Je suis conquise par les deux comédiens, Brendan Scannell, qu'on avait vu dans la série Heathers, et Zoé Levin, aperçue au cinéma dans Palo Alto. À consommer sans modération, donc Bonding sur Netflix, la série qui rend les gestes barrières, les gants et les masques sexy et rigolo. Et ça, c'est pas rien.
Vive les menottes. Merci beaucoup à Vakaen et merci beaucoup à Ariane pour cet excellent plateau télé. Oui, c'est complètement nous. Voilà, absolument. Une heure en série, c'est fini. Merci à vous trois d'y avoir participé. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir écouté. Nous vous avons recommandé ou pas The Snowpiercer sur Netflix, Little Fires Everywhere sur Prime Video et I Am The Night sur 13e rue. La semaine prochaine, nous évoquerons entre autres Le Domaine sur Arte et Space Force sur Netflix. Demain à 11h et à 20h, j'aurai le plaisir de vous retrouver aux côtés de Jérôme Garcin pour un Masque et la Plume consacré au cinéma. Une heure en série, une émission à réécouter en podcast. Il y a un site internet, vous pouvez nous envoyer vos courriers, bien évidemment. L'émission cette semaine a été réalisée, merci encore à lui, par David Leprince. La programmation musicale assurée par Muriel Pérez. Et j'ai eu, comme chaque semaine, l'immense plaisir de préparer cette émission aux côtés d'Amel Kaldi.